Mercredi aujourd'hui, nous sommes le 5 juin. Plein de courage à vous. Le journal de 7h, Martin Bartoletti. Et une nouvelle nuit de mobilisation aux urgences de Lariboisière.
Une grande partie de l'équipe de nuit est en arrêt maladie. Action inédite pour dénoncer le manque de moyens. Une aide-soignante raconte son quotidien dans un instant. Vous respirez mal dans le métro? C'est normal, l'air y est très pollué. Des dispositifs sont à l'essai pour faire baisser cette pollution dans les gares souterraines parisiennes. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 5 ans, juste le temps pour se former à la cuisine. Les JO auront besoin de 25 000 emplois en lien avec la restauration. Et dans le prochain quart d'heure, on fait la route ensemble.
Oui, avec la difficulté hein, ce matin sur les routes, sur la 15, sur la 4, prudence aussi sur la 6. En cause, évidemment, la météo, de la pluie au programme tout au long de la journée.
France Bleu Paris Matin.
Les urgentistes de Lariboisière mènent une action inédite. La quasi-totalité du service de nuit est en arrêt maladie depuis lundi soir. Mobilisation à rarissime pour montrer leur mal-être au travail et dénoncer le manque de moyens. Des urgences en grève depuis plusieurs semaines un peu partout en France. Sébastien Sabiron a recueilli le témoignage d'une aide-soignante de l'hôpital parisien.
Marine nous reçoit chez elle à Paris. Au-delà de son propre arrêt maladie, elle dénonce un burn-out généralisé.
J'ai deux hernies discales, ça fait 15 ans que je pousse des brancards qui ne roulent pas droit, qui ne freinent pas, des lits qui ne se lèvent pas. On remarque absolument pas quand les urgentistes font grève, mis à part un brassard que nous avons sur nous et une décoration. Si on entend parler de nous sur un arrêt maladie, écoutez... Il faut qu'on essaye de taper du poing et dire qu'il faut arrêter ce burn-out complet du personnel.
Aide-soignante depuis 15 ans à Lariboisière, Marine décrit des urgences saturées, des couloirs encombrés de brancards, les crachats, les insultes de certains patients à bout de nerfs.
C'est juste inadmissible qu'une personne âgée puisse rester 14 heures, 15 heures sur un brancard. C'est pas fait pour qu'on reste des heures dessus, on attrape des escarres, c'est un morceau de plastique. Depuis cet été, nous, Lariboisière, on est en train de crier en disant stop, stop, stop. À quand un décès dans la salle d'attente ? Ça nous est arrivé. Vous croyez qu'on en est fiers ?
Un décès retentissant en décembre dernier. La ministre de la Santé Agnès Buzyn promet de réorganiser la médecine de ville pour désengorger les urgences. Bonne idée, mais le temps presse, répond Marine.
Ce qui s'est passé se repassera dans les autres services d'urgence. C'est ce que Madame Buzyn justement n'arrive pas à comprendre. On veut du personnel pour justement pouvoir prendre le patient en considération. Qu'il n'y ait plus de décès dans les salles d'attente.
Tous les urgentistes de France sont appelés à manifester demain à Paris.
Et dans moins de 12 minutes, maintenant, une infirmière de nuit de l'hôpital Lariboisière est avec nous. Inès Gay, l'invitée de France Bleu Paris à 7h15.
Dans l'actualité également, les fameuses tours de Levallois qui font leur entrée au procès des Balkany.
Le projet devait être financé par le milliardaire Mohamed Al-Jaber mais n'a jamais vu le jour, ce qui a coûté plusieurs millions d'euros à la ville. La justice cherche à savoir si l'homme d'affaires saoudien a financé le riad de Marrakech en échange d'un délai de paiement. Pour Julien Milot de l'association des contribuables de Levallois, le doute n'est pas permis.
Les tours de Levallois devaient générer 234 millions d'euros en droit à construire pour la ville. Monsieur Al-Jaber n'a jamais payé cette somme. Et dans le même temps, il y a un riad à Marrakech qui aurait été, d'après la justice, payé par Monsieur Al-Jaber pour le compte de Monsieur Balkany. Car on sait, avec les différents éléments dont on dispose, que vous retrouvez différentes choses qui appartenaient à M. Balkany. Vous avez des peignoirs brodés avec ses initiales, vous avez des éléments, des caisses de vin à son nom, vous avez des sommes d'argent en espèces dans les peignoirs, différentes déclarations des intervenants, donc des employés qui y travaillaient. Donc on voit bien que les liens sont très étroits. Vous avez une situation qui apparaît de plus en plus claire après les interventions des différents protagonistes et des prévenus.
Reprise des débats cet après-midi avec l'audition du cheikh Al-Jaber, le procès des époux Balkany pour corruption et blanchiment d'argent doit durer jusqu'au 20 juin. Éric Drouet, figure du mouvement des Gilets jaunes, doit être jugé aujourd'hui pour participation à un groupement formé en vue de violence ou de dégradation et pour port d'armes prohibées. Une matraque en bois avait été retrouvée sur lui lors d'un contrôle de police le 22 décembre dernier. 55 donateurs ont porté plainte contre Litchi. Ils accusent la plateforme d'avoir bloqué la cagnotte créée pour Christophe Détinger. L'affaire passe en justice aujourd'hui. Cette tirelire en ligne avait été créée pour soutenir l'ancien boxeur condamné à un an de prison pour avoir frappé des gendarmes à Paris lors d'une manifestation des Gilets jaunes.
Tout pile 7h05 sur France Bleu Paris et cette question, comment améliorer la qualité de l'air dans le métro ou le RER ?
Vous pensez être à l'abri sous terre, en réalité c'est parfois pire qu'à l'extérieur. L'air du métro est pollué et notamment en particules fines libérées lors du freinage des trains. La région, la RATP et la SNCF se mobilisent pour lutter contre cette pollution. Des dispositifs sont à l'essai en ce moment, Mélodie Pépin.
Vous les avez peut-être vus, deux gros caissons installés sur le quai, station Alexandre Dumas. À partir de vendredi, ils entrent en action. Ils vont capturer les particules fines de la station grâce à une technologie innovante proposée par Suez, le directeur du pôle Air, Jérôme Arnaudis.
En fait, c'est un procédé de filtration électrostatique qu'on fait passer un faible courant électrique qui est injecté dans les particules fines, lesquelles sont alors attirées tel un aimant sur des plaques collectrices. Et donc c'est une solution qui permet de traiter une très grande quantité d'air en consommant une très faible quantité d'énergie.
Résultat des tests à la fin de l'année, des tests financés par la région, 1 million d'euros, car l'enjeu sanitaire est majeur, les concentrations de particules sont jusqu'à 10 fois supérieures au seuil de recommandation. Une priorité aussi pour la RATP, assure Sophie Mazoué, responsable du service développement durable.
On a un programme de création, de renouvellement de la ventilation de tunnels pour 56 millions d'euros. Et puis on a également tout le renouvellement du matériel roulant qui dispose aujourd'hui d'un très bon freinage électrique qui va permettre finalement de réduire les émissions à la source de particules.
En attendant de voir peut-être ces purificateurs d'air géants sur les quais, mais pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de test.
Mélodie Pépin que l'on retrouve près de ces dispositifs à 7h45, c'est le dossier de la rédaction de France Bleu Paris. La foudre a frappé plus de 500 fois la région parisienne hier. Les 8 départements franciliens ne sont plus en vigilance orange aux orages. La météo capricieuse a fortement perturbé le trafic des trains, notamment les TER en direction du nord.
Et puis, si vous enfiliez un tablier de cuisinier pour les JO 2024
hein. Les Jeux Olympiques parisiens vont créer ou mobiliser 150 000 emplois, la majorité dans la restauration. Le président du comité d'organisation a réaffirmé hier sa volonté d'offrir cette activité à l'économie locale. Tony Estanguet était à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis pour visiter les locaux de cuisine mode d'emploi, une école créée par le chef Thierry Marx l'an dernier pour former des futurs cuisiniers gratuitement. Et les étudiants comptent bien se servir des jeux à Gira Mohamed.
Sous sa toque, Denise se voit déjà cuisiner un plat en 2024 pour son sportif préféré.
C'est du renard. Vu que c'est un costaud, je pense que je vous ferai un bœuf bourguignon. En dessert, je ferai une tarte aux pois.
Après une période de chômage, cette mère de famille d'Aubervilliers a rebondi ici dans cette formation. Elle rêve maintenant d'ouvrir sa brasserie et un petit passage par les Jeux Olympiques, ce serait un plus pour elle.
Professionnellement, ça apporte l'expérience. Je pense que les gens me font plus confiance des fois que j'ai bossé pour les JO et c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que c'est enrichissant pour moi et mon CV.
Mais ces écoles et ces entreprises d'insertion ont-elles vraiment leur place dans un événement aussi énorme? La réponse est oui pour Tony Estanguet.
Traditionnellement, sur les dernières éditions des Jeux, c'est effectivement des grands groupes qui raflent la totalité des marchés. Nous, on est en train de réfléchir aujourd'hui, est-ce qu'on peut ouvrir justement une partie de ces marchés à des entreprises qui ont la bonne taille pour y répondre? Mais ça, si on l'anticipe aujourd'hui et qu'on est capable de mieux connaître justement ces entreprises ici localement implantées, eh bien on va organiser les marchés différemment.
Et la restauration sera l'un des secteurs qui va le plus recruter pour ces Jeux en 2024 avec 25 000 postes à saisir.
Le reportage d'Agira Mohamed pour France Bleu Paris. Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en battant son compatriote Wawrinka. Le Suisse affrontera Rafael Nadal vendredi pour une place en finale.